La charité. C'est la meilleure de toutes les vertus qu'un chrétien peut posséder. Elle donne un sens à tout ce que l'on fait et oriente toutes les actions vers Dieu et les autres. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il n'est pas suffisant de beaucoup se sacrifier ou de faire de grands efforts de générosité. Car quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. N'allons pas nous arrêter sur l'amour que les époux doivent se manifester et sur son rapport avec l'amour de Dieu. La vie matrimoniale se construit sur l'amour et elle s'embellit de toutes les vertus que l'amour fait naître. Voilà pourquoi tout ce que saint Paul écrit sur la charité peut être appliqué aux rapports familiaux. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité n'est donc pas un rapport froid de respect mutuel, mais une attitude pleine de bonté, d'affection, de finesse. Elle se manifeste dans les aspects petits mais héroïques de la tenue de la maison, du soin dans les repas, dans le sourire lorsqu'on n'en a pas envie, dans le respect de l'intimité personnelle des autres, dans la conversation agréable et délicate, dans l'écoute des opinions, des désirs et caprices du conjoint, dans le fait d'éviter ce qui peut déranger les autres, tant d'autres petitesses apparentes seulement, parce qu'elles ont une grande signification. Les vertus morales. Il ne s'agit pas ici de faire un code de vertu. Nous voulons simplement indiquer comment tout ce qui rend l'homme meilleur, humainement et surnaturellement, a une influence décisive dans sa vie et sa conduite matrimoniale. Le processus de maturité personnelle et familiale passe par l'exercice de toutes ces vertus. Prudente doit être la femme lorsqu'elle comprend qu'une question, une plainte ou un reproche inopportun peuvent attendre un meilleur moment, lorsque son époux est fatigué ou préoccupé par une affaire professionnelle. Et prudent aussi le mari pour éviter à sa femme, dans certaines conditions de santé, des exigences pour le foyer ou l'intimité de leur rapport. Les deux doivent être prudents au moment de planifier l'éducation de leurs enfants, sans de faibles complaisances ni des exigences inappropriées ou impossibles. La prudence n'est pas une vertu passive ni lâche. Elle est une direction ordonnée, active et courageuse vers leur véritable but. La prudence réclame la force pour ne pas s'effondrer et résister aux contrariétés. Éviter les conflits, maintenir la sérénité face aux imprévus, ne pas se plaindre à la moindre chose désagréable, ni pour des maladies sérieuses ou des malaises passagers. La tempérance sait dominer aussi bien l'intempérance verbale que l'avidité incontrôlée de plaisir ou de jouissance qui enlève la force pour le don total de la vie dans le mariage. Et la justice, disposition constante à respecter avec délicatesse continuelle les droits à l'affection et à l'amour dus à tous ceux qui composent le foyer. Pour accomplir avec fidélité toutes les obligations sans en esquiver aucune. Pour accorder une grande valeur à la dignité de la personne dans les rapports avec les enfants qui, au dire de certains, ne semblent pas avoir de droits alors qu'ils sont tout petits. Justice aussi avec les employés de maison, s'il y en a, avec les voisins et avec tous ceux qui s'approchent de la maison avec plus ou moins de fréquence. L'obéissance, vertu très importante mais souvent méprisée. Elle n'est pas abandon honteux de la personnalité, ni servilité enfantine. Elle est soumission volontaire et libre à la volonté divine, disposition de dons généreux face aux demandes raisonnables. Saint Paul, dans un texte bien connu, exhorte les femmes à être assujetties à leur mari comme l'Église au Christ, et les époux à aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. L'obéissance, c'est aussi respecter les lois civiles, les lois de l'Église, accomplir les devoirs civiques et religieux. Depuis ce qui semble le plus petit, et qui ne l'est pas, comme le code de la route, jusqu'aux dispositions plus précises de la volonté de Dieu contenues dans le décalogue. Une autre vertu, l'humilité, est en rapport avec l'obéissance, comme la racine l'est avec les fruits. Sans humilité, il ne peut pas y avoir d'obéissance. Humbles doivent être le mari et la femme, s'ils veulent rendre heureux ceux dont ils partagent l'existence. Rejeter les problèmes personnels, se donner généreusement aux autres sans chercher de compensation. Servir sans exiger de contrepartie, sans prétendre être récompensé. L'humilité permet de mener à terme la tâche familiale sans complications superflues, sachant cacher la fatigue, évitant la présence asservissante, se donnant aux autres sans bruit et sans rien demander en échange. L'humilité est le grand moyen pour être saint, pour vivre heureux et donner de la joie aux autres. L'homme et la femme humbles savent contrôler leurs réactions, leurs paroles et leurs colères. Ils savent parler de manière positive. Ils savent qu'ils n'ont pas toujours raison et savent rectifier, demander pardon. Ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ils ont de la considération pour les autres. Voilà quelques-unes des caractéristiques essentielles d'une famille vraiment chrétienne. L'esprit de pauvreté, qui ne consiste pas évidemment à ne pas posséder, mais à savoir être détaché, à utiliser les biens matériels et intellectuels avec détachement, sans chercher le bien-être par-dessus tout. Le père et la mère qui donnent à chaque chose la place qui lui revient et qui ne font pas de drame lorsque quelque chose se perd ou se casse, vivent la vertu de pauvreté. Ceux qui savent marcher, prendre le bus ou le métro avec la même facilité que la voiture. Ceux qui emploient leurs biens avec générosité et désintéressement, qui ne s'attachent pas à ce qu'ils ont ou qu'ils utilisent, ceux-là vivent la vertu de pauvreté. Tous les chrétiens doivent apprendre à pratiquer la vertu de pauvreté, ce qui n'est pas facile, particulièrement parce que dès qu'on parle de la pauvreté de ceux qui désirent suivre le Christ, on pense à l'admirable austérité des religieux ou aux exemples visibles de misère ou même à la saleté. S'il faut apprendre à vivre toutes les vertus, il faudra le faire particulièrement pour la pauvreté à cause des malentendus qui peuvent exister. La pauvreté n'est pas un simple renoncement, même s'il faut se passer du superflu et parfois même du nécessaire avec grandeur d'esprit, surmontant l'égoïsme et le confort facile. La pauvreté conduit à porter avec joie les inconvénients et la privation de ce qui pourrait sembler indispensable, à profiter du temps, minute après minute, à prendre soin avec délicatesse des objets qu'on utilise, à ne pas faire des dépenses de luxe, à ne pas jeter ce qui sert encore, et tant d'autres petites choses qui demandent sacrifice, abnégation et détachement, le tout dans une ambiance de sérénité et de joie. Un foyer avec beaucoup d'enfants est souvent une très bonne occasion d'apprendre, aux enfants et aux jeunes, à partager. Il n'y a pas le « mien » et le « tien » exclusif. Vêtements, disques, radios servent à toute la famille, en s'efforçant à ce que tous s'en sentent responsables. C'est pourquoi dans une famille nombreuse, il est plus facile d'éduquer, car les enfants se corrigent mutuellement, protestent contre l'injustice ou le mauvais comportement de leurs frères ou sœurs, l'égoïsme ou la vanité. Les petits ridiculisent le manque d'humilité des aînés, et ceux-ci stimulent le désir de se dépasser des petits. Les vertus humaines. Il s'agit de ces qualités, bonnes habitudes acquises, qui façonnent la personnalité et la configurent. Les vertus humaines perfectionnent celui qui les possède dans sa dimension naturelle, ce qui a des répercussions évidentes sur le comportement face à Dieu. Elles sont comme la base, le fondement des vertus morales infuses et des vertus théologales. Lorsque les époux s'efforcent d'acquérir leur propre maturité, ils obtiennent la stabilité de l'esprit, la capacité de prendre des décisions avec prudence, la droiture pour juger des personnes et des choses. Ceci n'est que la manifestation d'un caractère doux et ferme, sincère, qui a une tendance positive vers la justice, la fidélité et la loyauté. Ce serait mauvais de chercher d'autres vertus surnaturelles si on négligeait la formation humaine dans la famille. Ne croyons pas à la valeur de notre apparente vertu de saint si elle n'est unie aux vertus ordinaires du chrétien. Ce serait porter de splendides bijoux sur des sous-vêtements. Considérons donc quelques-unes des vertus naturelles qui semblent indispensables dans la sanctification du mariage et qui s'adaptent à toute la famille. L'esprit de sacrifice, la sincérité, l'esprit de travail, la sérénité, la joie. L'esprit de sacrifice. Avoir la capacité à se mortifier, c'est savoir mener à terme avec joie, dans la mesure du possible, tout ce qui nous ennuie ou nous déplaît. La vie matrimoniale est pleine de toutes petites incompréhensions, de difficultés ordinaires et de contrariétés. Si l'on possède la vertu suffisante pour les accepter sans se plaindre, le foyer se remplit de paix et la présence de Dieu est plus facile. Il est alors possible de suivre le Christ de plus près, car sa parole nous invite. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. À ceux qui ressentent le poids de leur douleur et de leur peine comme du plomb sur les épaules trop faibles, le Rédempteur leur demande de les offrir, de les accepter pour collaborer avec lui au salut du monde et comme réparation pour les péchés. Et si la charge est encore trop lourde, il nous encourage à aller vers lui. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. L'esprit de travail. Le temps est compté. Les heures perdues crieront lors du jugement, comme les talents vainement cachés. Dans la maison, l'esprit de travail de chacun est indispensable pour l'efficacité de la tâche totale et pour la sanctification de la famille. Le temps est court, irrécupérable, et il y a beaucoup à faire. S'occuper des enfants, le travail professionnel, les tâches ménagères et le repos, qui n'est pas un luxe et qui ne consiste pas à ne rien faire, mais à changer d'occupation, faire quelque chose de plus agréable, plus amusant, mais pas totalement stérile. Lutter contre la paresse, contre le confort, contre la tendance à la facilité. Terminer bien le travail commencé, en soignant les détails, qui ont de la transcendance dans l'amour de Dieu et des autres, et qui donnent la mesure du bonheur. Celui qui sait faire attention aux petites choses est quelqu'un à qui on peut faire confiance. On peut lui demander aussi des choses importantes. Dieu se montre très généreux envers celui qui a su travailler, sans se laisser arrêter par la fatigue, jusqu'à la fin, agissant pour l'amour de Dieu et en sa présence. L'ordre et la ponctualité. Sans ces vertus qui semblent petites et ne le sont pas, il n'y a ni efficacité ni paix dans la vie courante. Une personne désordonnée qui ne soigne pas la ponctualité, non seulement perd son temps, mais elle néglige aussi son travail et souvent énerve ceux qui sont autour d'elle. N'importe quelle vertu doit être elle-même ordonnée. Sans ordre, il n'y a pas de vertu. Mais il ne suffit pas d'arranger l'extérieur, papier, vêtements, maison. Il y a aussi un ordre dans les idées et dans les affections. Une hiérarchie de valeurs est nécessaire pour distinguer les priorités de chaque instant. L'organisation dans l'utilisation du temps. Un bon plan de vie, flexible mais strict. J'ai entendu dire à un prêtre, profond connaisseur des personnes, qu'il se rend compte de l'état intérieur d'une âme en ouvrant l'armoire où il range ses vêtements. Voilà un point précis pour faire examen et pour accorder plus d'importance aux choses que nous négligeons facilement malgré leur transcendance. En effet, ces petites choses ont une grande influence dans la vie spirituelle et dans les rapports avec Dieu, car tout ce que nous faisons a une répercussion dans l'âme. On pourrait en dire autant de la ponctualité. On accorde parfois peu d'importance à cette vertu, et pourtant, la délicatesse pour ne pas faire attendre les autres sans motif justifié appartient à la vertu de charité. Ceux qui ont la mauvaise habitude d'arriver en retard au rendez-vous, aux réunions, ne se rendent peut-être pas compte du dérangement qu'ils provoquent chez les autres et de la patience qu'ils exigent d'eux. Le manque de ponctualité indique non seulement un désordre, mais aussi un manque de courtoisie et peu d'humilité. Au fond, c'est prétendre que le temps des autres s'arrête et que le cours des événements soit retardé à cause d'une négligence pour être à l'heure, par paresse ou par manque d'organisation. L'ordre et la ponctualité sont deux vertus apparemment petites, mais d'une grande influence dans la bonne marche de la vie en famille. Les occasions de les vivre sont tellement fréquentes que leur accomplissement est très formateur et méritoire. Que les horaires des repas soient respectés, que le linge soit prêt à l'heure prévue, que les choses soient à leur place, que l'on ne fasse pas attendre les autres, que tout ait sa place, sa date et son heure. Voilà bien des manières de rendre la vie en famille plus agréable. La sérénité et la joie, elles sont conséquences de la foi et de la vision surnaturelle, mais aussi de l'ordre. Il est important de savoir sourire, d'être de bonne humeur, de ne pas faire de drame face à l'imprévu, de reconnaître le bon côté de chaque situation. Il ne s'agit pas de vertus faciles, car la vie est remplie de privations, de douleurs et de luttes. Mais il convient d'être décidé à les pratiquer en permanence et à les maintenir toujours en éveil. Une idée peut aider à mieux les vivre. Pensez toujours que, même si ceux à qui on accorde une faveur ne se montrent pas reconnaissants ou ne payent pas de retour, c'est toujours le Seigneur que nous tâchons de servir. Et lui, il faut le servir dans la joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien d'autres vertus, humaines et surnaturelles, composent la vie quotidienne lorsqu'elle est vécue en plénitude, et elles donnent une tonalité aimable, optimiste et savoureuse à la vie de la famille. Toutes les vertus sont à vivre avec délicatesse. Elles rendent le foyer familial très agréable. Mais surtout, elles sont fondamentales pour construire la sainteté des époux. La vie spirituelle des époux et des enfants. Le mariage, nous avons insisté là-dessus, est un authentique chemin de sainteté. On y trouve les éléments nécessaires pour que les époux, et avec eux les enfants et les autres composants de la famille, orientent leur vie vers Dieu. Avec naturel et simplicité, la vie familiale a des répercussions surnaturelles parce que Dieu s'intéresse à tout ce qui arrive dans un foyer chrétien. Il n'est pas facile de définir la forme que doit adopter la spiritualité conjugale, ni les moyens à employer pour la vivre. Chacun a son propre chemin, ses exigences précises, et il faut le respecter. Mais il est quand même possible d'ébaucher quelques directives pour ceux qui veulent le suivre. Il semble que les époux chrétiens doivent vivre une spiritualité éminemment laïque et séculière. On ne peut pas adapter au mariage l'une ou l'autre spiritualité propre à l'état clérical ou religieux. Les laïcs ont leur vocation et mission propre dans l'Église, sanctifier les réalités temporelles là où leur vie se déroule naturellement. Cette vocation détermine leur propre spiritualité qui ne peut pas être fondée sur l'éloignement du monde, comme c'est le cas des religieux, mais dans l'effort continuel pour placer le Christ au milieu des activités humaines. La famille, la société, le travail, les relations sociales. Une spiritualité laïque, bien comprise, saura imprégner d'esprit chrétien toutes ces situations temporelles, les élevant vers Dieu et à travers elles, élever chacun vers Dieu. Si nous considérons le cadre familial où se déroule une grande partie de la vie des époux, on voit qu'une spiritualité conjugale et familiale sera authentique dans la mesure où elle tient compte de ce qu'est une famille, ses circonstances, ses difficultés et ses obligations. Il serait absurde de penser que les époux sont en train d'agir en accord avec leur vocation si, même en accomplissant plusieurs dévotions religieuses, ils sont incapables de se donner l'un à l'autre avec générosité et sacrifice dans les petits détails de la vie en commun, ou s'ils ne savent pas surnaturaliser les difficultés inhérentes à la tâche familiale, ou s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'éducation de leurs enfants. Disons aussi que dans la spiritualité conjugale, les pratiques de piété doivent être en harmonie avec les obligations que comporte la condition de parent et d'époux. Elles devront s'adapter aux circonstances particulières de chacun, pour l'horaire et pour le temps consacré. Il est logique de penser que, si Dieu a confié une mission précise aux époux, son accomplissement soit considéré comme leur tâche principale pour plaire à Dieu, l'honorer et le servir le mieux possible. Ils ne devraient donc négliger aucun de leurs devoirs sous le prétexte trompeur de se consacrer à une piété mal comprise qui, bien qu'étant bonne en elle-même, ne doit pas empêcher les obligations familiales. Oui, il est nécessaire d'accomplir des actes de piété, par exemple l'offrande d'œuvre le matin, un moment de lecture spirituelle, la Bible ou un livre de spiritualité, pas trop long, quelques coutumes mariales, le chapelet peut-être, ou tout au moins la considération des mystères, les trois « Je vous salue Marie » à Notre-Dame le soir, l'examen de conscience et un moment consacré à la prière ou à la méditation, la messe si possible, mais pas beaucoup plus. L'important, c'est que ces actes soient accomplis avec amour, constance et de manière compatible avec leur première mission qui consiste à se donner entièrement aux conjoints et aux enfants. Bref, si la piété est nécessaire pour pouvoir surnaturaliser la vie familiale, elle doit être vécue en harmonie avec les devoirs familiaux et l'intérêt pour toutes les affaires du foyer. Le climat de sainteté d'un foyer chrétien doit envahir toutes les réalités, car elles sont toutes sanctifiables. La lutte silencieuse pour surmonter une douleur, la joie sonore d'une réunion familiale, les petites disputes passagères, l'affection que l'on manifeste, les heures pleines d'exultation de l'unité et du don généreux, ou le combat contre les petits égoïsmes que l'on s'efforce de surmonter. L'esprit chrétien se manifeste dans de multiples occasions et pas seulement au moment de faire des actes de piété. Le désir de servir, la compréhension, la capacité de pardonner, la délicatesse, le soin dans la préparation d'un repas, l'ordre, la propreté de la maison, la sérénité devant les contrariétés, la bonne humeur constante et tant d'autres petits détails crient l'amour de Dieu. Disons enfin que les époux devraient s'aider mutuellement dans la vie spirituelle, sans poser de difficultés à l'autre. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient la même manière de vivre la piété, ni qu'ils appartiennent à la même association religieuse, et encore moins que l'un prétende devenir le directeur spirituel de l'autre. Ils doivent se respecter, permettre à l'autre de suivre sa propre vie intérieure, sans l'en empêcher, non seulement par une interdiction manifestée qui entraverait la liberté personnelle, mais par d'autres manières plus sournoises, comme les blagues ou l'ironie. Le mari n'a pas à approuver la vie spirituelle de sa femme, et la femme ne doit pas décider des prières de son mari. Les deux sont autonomes dans cet aspect important de la vie de leur âme. Bref, il n'est pas nécessaire que le mari pratique sa religion de la même manière que sa femme ou vice-versa. Il suffit qu'ils se comprennent, qu'ils se respectent pour que, dans le mariage, chacun cherche la sainteté à laquelle tous les baptisés sont appelés, en collaborant évidemment, comme dans tous les autres aspects de leur existence, dans leur vie surnaturelle.